France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Franche Culture, 30 minutes de rencontres et de découvertes en Anjou. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Cécile, Marie et Dominique. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Bénédicte.
Deux églises accolées, imbriquées même, ce n'est pas courant. Cécile nous fait découvrir la très belle église de la Trinité à Angers. Pour compléter la visite du Ronceret que vous retrouverez dans notre podcast du 4 mars dernier. Une nouvelle sculpture à parcelles et pins depuis le 4 avril dans le petit mais savoureux musée consacré à l'œuvre de Jules Desbois, ami d'atelier du sculpteur Rodin. Nous recevons Louise Croquevieille, chargée de la communication des trois musées insolites en Anjou. Et puis tout de suite, on lève le voile sur le nouveau porche de la cathédrale d'Angers, inauguré le 9 avril, en grande pompe. Alors pourquoi une galerie contemporaine? Pourquoi un architecte japonais? Ce porche suscite réactions et débats depuis l'annonce du lauréat du projet. Et c'est vous, notre chroniqueur patrimoine, qui répondrez, Dominique.
Le patriarche du patrimoine.
Le 9 avril, inauguration officielle du porche de la cathédrale d'Angers, dessiné par l'architecte Kengo Kuma, un projet d'ampleur nationale.
Oui, demain, Angers reçoit Madame la toute nouvelle ministre de la Culture, Catherine Pégard. Et cette manifestation a lieu à 18h, elle est ouverte à tous. Elle viendra ouvrir la nouvelle galerie de la façade d'entrée de la cathédrale et mettre ainsi à l'honneur un projet d'extension créé au XXIe siècle sur un édifice dont les premiers travaux datent du XIIe. C'est donc une page importante dans son histoire qui s'ouvre.
Alors Dominique, pourquoi une galerie?
Eh bien, il y a toujours eu une galerie sur cette cathédrale d'Angers. Une galerie, c'est l'espace de transition entre le profane et le sacré d'abord. Mais c'est aussi une galerie qui avait pour objet de protéger le portail des intempéries, des UV, des ultraviolets, des vents, des chocs thermiques et du vandalisme. Protéger donc ce portail, parce que ce portail, c'est un ensemble de sculptures polychromes, comme il n'en existe plus qu'un seul autre exemplaire en France, à savoir le portail de la Vierge à la cathédrale de Senlis. Il n'y en a plus d'autres, alors que tous ces portails, à l'origine, étaient peints.
Donc c'était ça ou une bâche?
Il fallait absolument retrouver une structure qui permette de mettre ce joyau architectural sculpté à l'abri des intempéries. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on a découvert l'intérêt sous les badigeons réalisés début 19e, dès qu'on a découvert l'importance et la qualité des polychromie de ces sculptures, on a tout de suite mis l'ensemble sous un grand emballage en bois qui est resté là pendant une vingtaine d'années. La première galerie dont j'ai parlé, elle a disparu en 1807. Elle a disparu faute d'entretien régulier. Elle tombait réellement en ruine et il a fallu la démonter pour assurer la sécurité des fidèles.
Elle était là depuis l'origine.
Elle était là depuis la fin du XIIe siècle, absolument, dans ce but de préserver les sculptures.
Et alors, les différents projets de ce porche? Il y a eu plusieurs projets, en fait.
Alors, quand le ministère de la Culture, qui est propriétaire de l'édifice, a décidé de se lancer dans ce vaste projet, il y a tout un processus extrêmement long qui commence par informer la profession du projet qui va naître, avec un programme extrêmement précis. La profession a assez peu répondu à cette offre de service, puisqu'il n'y a eu que 25 cabinets à répondre à cette demande. Un comité s'est réuni, une commission s'est réunie pour choisir parmi ces 25 prétendants quels pouvaient être les 5 meilleurs candidats qui vont être rémunérés pour présenter un projet. ils sont choisis en raison de leurs compétences, de leurs références, de leur savoir-faire, de l'ampleur de leur cabinet pour répondre à un projet qui est, somme toute, très particulier et qui va forcément susciter l'intérêt de tous.
Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas refait à l'identique comme à Notre-Dame à Paris ?
La question s'est posée. Malheureusement, même les meilleurs archivistes et historiens n'ont pas réussi à trouver les éléments suffisants pour permettre une restitution. On a sur cette galerie de la cathédrale deux dessins qui sont malheureusement assez contradictoires et aucun autre document qui aurait pu permettre de procéder à une restitution. À Notre-Dame de Paris, la flèche, elle a été relevée, copiée, mise en maquette maintes et maintes fois, et il n'y avait aucun doute possible sur les dessins très très précis de tous ces ouvrages. C'était pas du tout le cas pour la cathédrale d'Angers. Donc il a fallu se résoudre à proposer une création contemporaine.
Et alors, votre avis d'architecte sur cet ouvrage qui suscite des polémiques, on en a parlé ?
Je répète que c'était indispensable de procéder à la réalisation de cet ouvrage-là. Le jury donc s'est réuni plusieurs fois pour examiner les cinq propositions. Moi, j'ai pu, comme tout le monde peut le faire d'ailleurs, regarder les cinq propositions, les comparer. Je pense que le jury n'a pas mis très longtemps avant de se décider sur le projet de Monsieur Kengo Kuma, et il l'a fait. Comment dire, dans la plus grande sérénité, puisque quand le jury se réunit, on ne donne pas le nom de chacun des candidats, on présente des croquis sans annotation particulière. Chaque candidat a une couleur qui lui est attribuée.
Donc c'était des projets anonymes, en fait.
Bien sûr, complètement anonymes. Et chacun des cinq candidats qui présente un projet est rémunéré, bien sûr, pour ce travail. Ça veut dire qu'il y a derrière une réflexion conséquente.
Donc on n'a pas choisi un architecte japonais, c'est le projet qui a été choisi.
Exactement, on a choisi une couleur pour un projet et c'est seulement à l'issue des votes que le président du jury a révélé le nom de l'architecte qui avait été choisi par l'ensemble des membres du jury.
Alors pourquoi l'ouvrage n'est pas en pierre ou en tuffeau ?
Alors, l'ouvrage a été conçu par Kengo Kuma comme un grand paravent qui se déploie devant la façade. C'est un ouvrage extrêmement mince, extrêmement fragile, extrêmement élégant dans son dessin, qui, de toute évidence, n'aurait jamais pu être réalisé en un autre matériau que le béton. Il ne se serait jamais tenu tout seul. S'il avait fallu réaliser l'ouvrage en pierre, il aurait fallu l'arc-bouter par des contreforts, ce qui n'était pas du tout dans l'esprit du projet de l'architecte qui a opté pour la très très grande sobriété. C'est le seul candidat, par exemple, à n'avoir proposé qu'un seul matériau pour répondre à ce projet de confection d'une galerie, façade et toiture.
Donc votre réponse sous-tend un peu votre avis sur le résultat.
Oui, mon avis dès le début a été assez favorable et j'ai soutenu la commission qui a retenu l'architecte Kengo Kuma, parce que vraiment c'était, comme je le dis, à la fois une élégance extrême, un ouvrage qui n'allait absolument pas nuire à la qualité, à l'originalité des autres éléments de cette cathédrale, et puis parce que c'était une réponse par un unique et seul matériau. Les autres projets étaient très composites, proposaient du bois, du béton, de l'acier, du verre. Lui était vraiment le seul à avoir réussi à répondre à tous les éléments du programme avec un seul et unique matériau.
Et quelles sont les autres réalisations françaises de Kengo Kuma ?
Kengo Kuma fait partie de cette famille d'architectes japonais qu'on voit assez fréquemment en Europe et en France aussi. Je peux rappeler, bien sûr, la construction de la pyramide du Louvre de M. Pei, mais ça, il y a déjà maintenant presque 40 ou 50 ans. Kengo Kuma, il a déjà œuvré plusieurs fois. C'est un architecte qui travaille aux États-Unis, qui travaille au Japon, qui travaille en France. En France, on le connaît. C'est lui qui a dessiné la Cité des Arts et de la Culture de Besançon. C'est lui à qui on doit aussi le Conservatoire Musique et Danse d'Aix-en-Provence. Et il a enfin réalisé le Musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt. Et puis son tout dernier projet, eh ben il a quelques semestres seulement, puisque c'est la station du métro du site des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et la station porte le nom de Pleyel, Saint-Denis Pleyel.
Merci Dominique.
Franche culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Alors vous êtes toujours sur Radio Campus dans l'émission Franche culture. Tout de suite, direction Parcelles et Pins avec Jules Desbois, sculpteur angevin du 19e siècle. Un musée lui est consacré et la nouvelle exposition met en avant une sculpture dont l'histoire mérite d'être contée. C'est à vous Marie et Louise Croguiel.
Orphée, c'est l'œuvre nouvellement retrouvée de Jules Desbois, qui donne son nom à l'exposition, une grande statue en plâtre de style classique, représentant un héros de la mythologie grecque, poète et musicien. Louise Croquevieille, cette statue a été présentée à Paris, au Salon de 1875, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ensuite ?
Alors cette sculpture d'Orphée, c'est vraiment le premier succès critique de Jules Desbois, donc c'est une œuvre qu'il va présenter alors qu'il est nouvellement arrivé à l'école des Beaux-Arts, et puis elle sera récompensée, une médaille de 3e classe, et puis elle est achetée par l'État et donnée au musée de Château-Gontier, par la suite où elle sera présentée, et par la suite on perd un peu sa trace, malheureusement, sa vie, au final, reste assez secrète. On sait qu'elle est déclarée perdue aux alentours des années 60-70.
Elle a été déclarée perdue.
Plus personne ne savait vraiment où était cette sculpture d'Orphée.
Le musée l'a déclarée perdue.
Exactement. Ce qui est assez étonnant quand on voit quand même la taille de la sculpture. Elle fait à peu près 1,50 m, donc c'est pas non plus une petite œuvre. Mais voilà, cette œuvre est déclarée perdue. On sait que Jules Desbois a un peu renié cette œuvre aussi de jeunesse, puisque son style a beaucoup évolué, donc il n'a pas forcément œuvré non plus à en faire une certaine publicité. Donc cette œuvre disparaît un petit peu des radars et elle est redécouverte.
Parce que ça avait commencé quand même en fanfare, hein. 1875, le salon à Paris, c'est extrêmement important pour un artiste. Et la preuve, il a eu une médaille et ça a été acheté. Alors ça paraît fou qu'elle puisse disparaître, comme vous dites, elle mesure presque 1,50 m. Alors dans quelles circonstances a-t-elle été retrouvée ? Quand, comment, où ?
Alors cette œuvre-là, pour nous, le musée Jules Desbois, elle a été vraiment redécouverte, on va dire en 2023, lors de la préparation de notre exposition « Desbois et l'Antique » qui a eu lieu en 2024. Donc tout simplement, notre conservateur qui est en charge des collections, de faire des demandes de prêts, s'est penché sur les collections très intéressantes d'antiques qui sont présentes au musée de Château-Gontier, musée d'art et d'histoire, et la personne en charge des collections au musée d'art et d'histoire a dit d'ailleurs « C'est intéressant votre demande, oui on a des antiques, mais on a aussi retrouvé une sculpture, c'est un Desbois, il est signé. »
Donc perdu et retrouvé, parce que déclaré perdu, retrouvé.
C'est ça, exactement. Donc eux, dans quelles circonstances
ils ont retrouvé ? Parce que finalement, elle n'a pas bougé, elle était restée à Château-Gontier depuis 1875.
Au final, oui, quelques kilomètres, puisqu'elle a été dans les caves d'un tribunal, puis ensuite elle a été remise dans les collections du musée, un peu en réserve. En fait, c'est donc suite à des travaux qui ont eu lieu au tribunal de Château-Gontier. Ils ont dû déménager toute cette cave. Tout a été déposé au musée de Château-Gontier. Et lors du récollement décennal, donc tous les 10 ans, les musées sont...
Oui, qu'est-ce que c'est un récollement ?
Sont dans l'obligation de pointer, de récoller. Un récollement, peut-être.
Il faut un inventaire, si on veut. Il faut une sorte d'inventaire avec le commerce,
c'est ça.
Il faut un inventaire.
Exactement, un inventaire des
œuvres. Ça paraît énorme, quand même.
C'est énorme. Souvent, d'ailleurs, on n'a pas forcément le temps. 10 ans, c'est beaucoup, mais c'est pas tant pour des collections de musées. Donc, on sait que cette conservatrice a pu pointer, mettre le doigt sur cette œuvre, qui est donc Orphée de Jules Desbois, et puis dire... On l'a retrouvé, il est dans les collections.
Il l'avait retrouvé depuis combien de temps ? Les années 80 ?
Un petit peu plus tard, on est aux alentours de 2010-2016, c'était le premier récollement décennal.
Ça veut dire quand même qu'entre la perte Et le récollement, il n'y a, oui, a pas eu d'inventaire, enfin, il n'y a pas eu d'autres récollements de faits, parce que...
Pas forcément, non, effectivement. Voilà. Effectivement, ou alors, après, voilà, ça c'est, le, c'est on va dire, le, la partie secrète des musées de Château-Gontier. Je pense qu'ils avaient quand même un œil sur leur collection, mais effectivement, pas un œil en tout cas aussi précis grâce à ce récollement décennal.
Alors, quel effet ça a fait, là, le conservateur qui apprend que, ben, en fait, on a une œuvre de Jules Desbois?
Très honnêtement, on n'en revenait pas. C'est vraiment, on s'est dit, oh, c'est étonnant quand même, hein, Jules Desbois. Il existe des œuvres de Jules Desbois assez régulièrement, et il y en a sur le marché de l'art qui ressortent, mais c'est beaucoup des petites pièces. Une sculpture comme celle-ci, assez majeure quand même dans le début de la carrière d'un artiste, c'est pas souvent. Donc on n'y croyait pas trop, et puis on l'a vu, et on s'est déplacé pour les fameuses antiques, et puis pour voir...
C'était bien vrai.
C'est ça, ce fameux Orphée, et une très belle surprise, une très grande joie surtout de voir cette œuvre formidable.
Alors Louise Croquevieille, cette redécouverte va nous permettre de rappeler aux auditeurs de France Culture que le musée Jules Desbois, il s'est constitué en 1979, c'est à peu près, grâce au travail de passionnés de l'artiste. Et donc si on parle avec Orphée d'une redécouverte, d'une œuvre perdue, on peut se demander comment s'enrichit la collection d'un musée comme celui-ci.
Ça peut effectivement partir, comme le musée Jules Desbois, hein, d'un groupe de passionnés, d'une association de passionnés, d'amateurs et qui ont choisi de redécouvrir et de mettre en avant le travail de Jules Desbois. Donc, c'est
ils ont commencé comment eux? Parce qu'ils n'avaient pas d'œuvre à eux.
C'est un travail de veille. Donc voilà, de se renseigner auprès des musées, puisque y a des œuvres de Jules Desbois, il en existe dans les musées.
Il y en a une à Orsay. Hein, Dominique nous a envoyé la photo il y a quelques semaines quand on a préparé le sujet. Il y a une œuvre de Jules Desbois, voilà, à Orsay, très visible.
Au moins une œuvre à Orsay. Il y en a une au musée de Nancy, on en a une au musée de la Piscine. On en a un petit peu partout. On sait que voilà, Jules Desbois, malgré tout, a eu quelques œuvres qui ont été achetées par l'État puis redistribuées dans les musées. Donc ça, c'est une, voilà, une possibilité.
C'est ce qui se faisait beaucoup au 19e.
C'est ce qui se faisait beaucoup au 19e, ce qui permet aussi d'avoir cet artiste présent un petit peu partout. Mais effectivement, parfois, on a ces œuvres-là, donc des demandes auprès des musées. Et puis, comme je vous le disais...
Donc ce groupe de passionnés en 79, il a commencé à chercher les œuvres, en fait.
C'est ça, c'est ça. Donc ça vient... à la toute base de Raymond Huard, qui est un sculpteur parseillais, passionné d'art et artiste, et lui-même possédait quelques œuvres de Desbois.
Quelques-unes. Il y a un fond.
Il y avait un petit fond, effectivement. Et ensuite, ça a été un travail auprès des galeristes, auprès de marchands d'art.
Donc des acquisitions.
Des acquisitions. Donc on a des acquisitions, on a des dons.
Des donations.
C'est ça. Donc là,
vous en avez encore, là?
On en a toujours, grâce justement à cette association qui est à l'origine du musée.
Qui est toujours active.
Tout à fait. Les amis de Jules Desbois, qui, alors peut-être pas tous les ans, mais en fait très régulièrement, s'informent sur justement le marché de Jules Desbois. Et font quelques acquisitions, un pastel, une petite œuvre d'art décoratif, ou des choses comme ça.
Ça a presque 50 ans quand même maintenant, exactement. Le début du travail.
Ouais,
est-ce qu'il y a de la préemption un petit peu? Non, ça n'arrive pas, il n'y a plus d'œuvres qui vont sur le marché des enchères.
Ça peut arriver, si, si, ça arrive, ça arrive. Nous, en tant que musée, on n'est pas forcément... on peut faire quelques acquisitions. Parfois, c'est effectivement par l'association. On a des fonds qui sont relativement modestes. Malgré tout, Jules Desbois a une certaine cote aujourd'hui. On s'en réjouit. Mais pour nos finances, ce n'est pas forcément la meilleure nouvelle. Mais heureusement, on travaille notamment...
Vaut mieux les donations, c'est
sûr. C'est ça. Avec une galerie, la galerie Nicolas Bourriaud à Paris, qui est un passionné de Jules Desbois et qui très régulièrement nous informe de ventes qui sont en cours et qui parfois... les achète et nous propose de nous les revendre ou de nous les donner ou déposer.
Alors, il reste quand même que redécouvrir dans les archives d'un musée assez proche une œuvre, c'est quand même tout à fait exceptionnel.
On a vraiment eu beaucoup de chance, ouais, je pense qu'on peut le dire. Beaucoup.
Donc, vous l'avez dit, cette représentation d'Orphée, elle se situe dans la jeunesse de Jules Desbois. Il ne l'a pas particulièrement aimé, lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur son aspect, son état?
Alors c'est une œuvre au final assez classique, d'ailleurs on l'évoque un petit peu dans l'exposition, c'est une manière de représenter Orphée, donc on a Orphée qui est assis, qui est légèrement tourné, il a une lyre à l'antique sur le côté de son corps, sur la droite de son corps, avec une carapace de tortue, donc vraiment très à l'ancienne. Les jambes sont également un petit peu tournées, donc là on voit déjà que Jules Desbois s'intéresse au mouvement du corps, très intéressant pour ce début de carrière. Mais c'est une représentation qu'on voit assez régulièrement, notamment dans des œuvres d'artistes contemporains de Jules Desbois. Donc on a quelques œuvres qui sont présentées. On sait que le grand prix, le sujet du grand prix de l'année d'avant de Paris était autour d'Orphée.
Donc, aussi, probablement, il était à la mode à ce moment-là.
Voilà, c'était très à la mode. C'est un sujet très à la mode. La représentation d'Orphée avec sa lyre est plutôt à la mode. Donc, on sait que Jules Desbois s'en est inspiré. Malheureusement, aujourd'hui,
son état.
Ce pauvre Orphée, déjà, il a perdu ses bras et il a perdu sa lyre. Donc ça va faire partie du grand chantier, on va dire, de cette exposition, de toute cette saison. C'est redonner à Orphée sa beauté d'antan.
Donc vous restaurez, elle est en cours de restauration.
Exactement. Tout l'intérêt de cette œuvre, c'est de pouvoir reparler et de la formation de Jules Desbois, de tout son parcours, du sujet aussi de cette œuvre, de tout ce qu'elle a pu inspirer au cours des années, et puis surtout de la restaurer. Donc on aura une intervention par mois par une restauratrice d'art, Marie Gouret, qui intervient sur les plâtres. Et qui se font en public. Voilà, on a plusieurs temps de rencontres au public, une fois par mois. C'est complètement gratuit. Donc, pour rencontrer la restauratrice et puis venir voir l'évolution de cette œuvre.
Venir plusieurs fois.
Voilà, au moins une fois par mois, avec un rendu, du coup, le 1er novembre pour la dernière séance d'ouverture.
Pour la médiation, il ne faut pas hésiter à aller sur le site 3 musées insolites en Anjou. Merci Louise Croquevieille. Je rappelle que vous êtes en charge de la communication et l'événementiel aux 3 musées insolites en Anjou. L'exposition Orphée, l'œuvre retrouvée de Jules Desbois, elle est en cours. Et jusqu'au 1er novembre 2026, il y a aussi les expositions
exactement
à Beaufort sur l'archéologie.
Tout à fait. On a une exposition sur l'archéologie et un artiste contemporain, Paolo Cardona, qui viendra au musée d'art et d'histoire de Beaugé.
Jules Desbois est aussi au musée d'Angers en ce moment.
Alors nous faisons une petite pause musicale avec Benjamin Biolay, Rends l'amour.
Prends-moi tout, la vie, la dignité, ma pointe sur le port. Les trois sous de côté qui demandent un temps d'effort. N'oublie pas d'emporter le canapé et tout confort. Ne laisse rien. Le cèdre centenaire, le panorama. Non, n'oublie rien. Même si c'est pour tout mettre au débarras. Mais rends je t'avais prêté, reprendre ses volets, mais je t'ai jamais rien donné. S'il te plaît, rends l'amour, et je me jette de la falaise, et je m'en vais te cueillir des fraises, si tu veux bien.
L'abbatiale du Ronceret, dans la Doutre, à Angers, vient d'être restaurée. On en a parlé lors d'une précédente émission. Et aujourd'hui, Cécile, on continue la visite avec l'église de la Trinité, qui est littéralement imbriquée dans l'abbatiale. Un phénomène étonnant.
Et oui, en plus, c'est une des plus anciennes et des plus élégantes églises de la ville. Enfin, c'était en tout cas ce que disait Prosper Mérinet. Prosper Mérinet, c'est ce célèbre inspecteur des monuments historiques du 19e siècle. Alors, nous avons rencontré Yves Durand, ancien journaliste et surtout bénévole de l'association Art et Fides, qui propose des visites guidées, historiques et architecturales de l'église de la Trinité. Pour commencer, nous lui avons demandé, mais pourquoi deux églises ainsi collées et imbriquées ?
Je vous propose de faire un grand saut en arrière et de remonter à la fin du 5e siècle. On va être vers 525 et il y a des traces écrites d'un petit sanctuaire dédié à la Sainte Vierge dans ce petit quartier de la Doute qui à l'époque n'est pas un quartier mais complètement à la campagne, un désert, il n'y a rien. Et malgré tout, il y a là un sanctuaire marial. On ne sait pas exactement ce que c'est. Monsieur Jarousseau, qui est un historien angevin, parle peut-être d'une petite basilique, voire d'un sanctuaire souterrain. En tout cas, il y a, à partir de la fin du 5e siècle, un sanctuaire marial. Et donc, lorsque le comte d'Anjou, Fulconera, à la fin du 11e siècle, décide de fonder une abbatiale, une abbaye de femmes, il ne le choisit pas au hasard, il va choisir ce site qui a déjà une ancienneté de 5 siècles.
pourquoi l'abbatiale va créer cette église, ou quelle est la continuité entre les deux?
Comme on le disait à l'instant, c'était désertique. Il y avait peut-être quelques pêcheurs, mais il n'y avait pas d'habitants dans ce quartier. Mais la présence des religieuses à partir de 1028, puisque c'est la date qui est officiellement retenue pour la création de Notre-Dame de la Charité, le premier nom du monastère du Ronceret, la présence de ces religieuses va entraîner l'implantation d'une population civile. Des gens vont commencer à venir pour fréquenter l'abbaye et ils vont s'établir autour, dans des petites masures, des choses très très pauvres. Mais il y a suffisamment de monde pour qu'à la fin du XIe siècle, on parle de bourg Sainte-Marie, et ça va être vraiment l'ancêtre de la Doutre, et suffisamment de monde pour que les religieuses souhaitent voir l'édification d'une église paroissiale.
Ça veut dire qu'elles ne souhaitaient pas en fait que les paroissiens soient dans leur abbatiale, mélangés, elles voulaient qu'il y ait un autre lieu, ou c'était trop petit?
Je ne sais pas s'il y a de l'ostracisme de leur part, je ne crois pas, mais simplement elles souhaitaient qu'il y ait une paroisse pour ces gens. Voilà. Et donc, à la fin du XIe siècle, va débuter la construction de cette église paroissiale. Malheureusement, il y a un incendie qui abîme énormément le quartier et qui notamment détruit la première église de la Trinité. Et donc, dès 1100, 1120, 1130, va être lancé le chantier de la nouvelle église de la Trinité. Celle-là va tenir parce qu'elle a une voûte de pierre, et c'est cette voûte, cette charpente, qui existe encore aujourd'hui.
Qui est encore là. Alors, pourquoi est-elle collée à l'abbatiale du Ronceret?
Elle est collée tout simplement pour des raisons topographiques. Vous avez l'abbatiale qui est entourée de tous les bâtiments monastiques, le cloître, le réfectoire, le dortoir.
Donc il y a tout un côté qui est occupé.
Tout un côté, c'est au nord de l'église de la Trinité. Au sud, vous avez une ancienne voie romaine, c'est la rue Beaurepaire d'aujourd'hui, et cette voie au Moyen-Âge est restée, ou est devenue une voie de communication essentielle. Quand on est dans ce quartier de la Doutre, même quand on est à Angers, sur la rive gauche, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui le centre-ville, et qu'on veut quitter Angers pour aller vers l'ouest, vers ce qui va devenir Nantes, ce qui va devenir Rennes, il n'y a pas d'autre solution que d'emprunter cette rue Beaurepaire. C'est un anachronisme, évidemment.
Aujourd'hui, on ne sort plus de la ville par cet axe-là. Hein.
Non, mais jusqu'au XXe siècle, c'était par là qu'on sortait.
C'était par là qu'on sortait d'Angers pour l'ouest.
On prenait ensuite la rue Saint-Jacques pour aller vers Nantes, ou on prenait la rue Lyonnaise, ancienne rue des Forges, pour aller vers Rennes.
Oui, donc cette église, finalement, elle trouve un espace.
Elle va s'imbriquer dans un espace assez réduit, ce qui explique également, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de transept. Bien sûr, c'est un choix d'architecte, mais cette église, normalement une église, le plus souvent, à la forme d'une croix, une croix latine, nef, et puis les deux bras de la croix, à gauche et à droite, là, c'est pas le cas. C'est un rectangle pur et simple.
C'est un style plantagenêt. Décrivez-nous cette architecture qui faisait tant plaisir à Prosper Mérimée.
Voilà. Alors d'abord, nous sommes à la jointure de l'art roman et de l'art gothique. Et vous avez dans cette église 13 petites chapelles latérales, chacune à son autel.
Qui sont assez étroites, parce que justement, comme on l'a dit, c'est tout en longueur.
Voilà, peu profonde. Et leur porche est roman. Et vous verrez qu'il est décoré d'un décor qui s'inspire du XIIe siècle, mais qui en fait est le plus souvent daté du XIXe siècle. Voilà pour l'art roman. De même que la crypte est vraiment romane. Quant à l'art gothique, eh bien, c'est l'élévation des murs. La clé de voûte est à 23 mètres de haut. C'est très lumineux, avec de grands vitraux, même si ce n'est pas les vitraux d'origine, bien sûr, mais enfin, des grandes fenêtres qui éclairent cette voûte et cette nef. Et puis des voûtes très bombées. C'est vraiment l'une des spécificités de l'art gothique plantagenêt, d'avoir des voûtes très bombées. À la même époque, au XIIe siècle, quand on est en Île-de-France, on a aussi du gothique, ce sont les débuts du gothique, mais avec des voûtes qui sont beaucoup plus ramassées, plus aplaties.
Le décor de cette... Moi, ce qui me frappe quand on rentre dans cette église, c'est effectivement l'élévation et le décor.
Vous seriez venu au moment des crues, comme il y a 31 ans. La Maine avait envahi l'église sur 30 cm de haut et sur 1,80 m dans la crypte. On a pris nos précautions cette année et on a dégagé la nef au moment de la montée de la Maine. On a dégagé la nef de toutes les chaises et de tous les bancs. Vous auriez vu une nef vide, encore plus belle qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce qu'elle paraissait très, très, très lumineuse, très, très, très large, alors qu'elle est effectivement assez étroite. Et donc, le décor, effectivement, est impressionnant. La plupart de ce décor date du XIXe siècle. Vous savez, au XIXe siècle, les architectes qui avaient compris l'intérêt de sauvegarder le patrimoine du Moyen-Âge, et on le doit en particulier à Prosper Mérimée, ces architectes ont entrepris la restauration de tous ces bâtiments, Viollet-le-Duc à Paris, je lis le terme ici en Maine-et-Loire, et chacun de ces architectes a voulu ajouter sa patte personnelle à cette restauration. Viollet-le-Duc a ajouté des gargouilles, des chimères, la fameuse flèche,
qui avait
pris feu il y a quelques années. Eh bien, à Angers, je lis le terme, a voulu lui aussi signer ses restaurations en complétant le décor d'inspiration romane qui orne donc tout le porche gothique qui conduit au cœur de l'église de la Trinité et puis également les voûtes, les arches plutôt, qui donnent sur les petites chapelles latérales.
Donc de très très beaux décors, même s'ils ne sont pas d'origine.
Et certains de ces décors, malgré tout, sont d'origine, heureusement. Oui. C'est le cas de chapiteaux, notamment dans le chœur. Sur la gauche du maître-autel, vous avez des sculptures qui datent du XIIe et XIIIe siècle. Ce sont des têtes grimaçantes, des feuillages, une végétation exubérante, des diables.
Et si je ne me trompe pas, il y a une partie sur le côté quand on rentre à gauche qui en fait fait partie de l'abbatiale qui a été intégrée dans l'église. C'est assez drôle ça.
Oui, au XIXe siècle, on a voulu créer un passage entre la Trinité et le ronceret, qui n'existait pas avant. Il y avait simplement une porte qui était réservée au clergé. On a d'abord percé une petite descente vers la crypte, puisque la crypte n'est pas celle de la Trinité, mais celle du ronceret. D'ailleurs, on voit bien, la crypte n'est pas sous l'église de la Trinité, elle est légèrement décalée sur la gauche quand on rentre. Elle se trouve sous le chœur et sous l'abside du ronceret. Et donc, on a créé là un passage. Et de même, ce qui est au-dessus, c'est-à-dire une absidiole du ronceret, est devenue une petite chapelle de la Trinité.
Voilà l'église de la Trinité, qui est place de la Laiterie à Angers, et donc bien collée et imbriquée dans l'abbatiale du Ronceret. Merci à Yves Durand, qui est bénévole, je le rappelle, de l'association Art et Fides, pour toutes ces explications.
Art et Fides proposera des visites commentées tout l'été, mais bien sûr l'église est ouverte avant, pour les curieux. Une très belle visite qui témoigne de l'architecture angevine. Voilà, c'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Étienne pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.